André Theurier, le fils Moga, première partie, chapitre 1. Ce jour-là, fin de juillet 1851, la petite ville de Saint-Clémentin était baignée d'un glorieux soleil, dont les rayons, déjà un peu obliques, flamboyaient dans toute la longueur de la rue Louis XIII. Il était 3 heures de l'après-midi. Les Saint-Clémentinois faisaient la sieste, comme il convient à de dignes poitevins pendant la canicule. Les volets avaient été hermétiquement clos afin de conserver un peu de fraîcheur à l'intérieur des habitations. Sauf quelques cris d'hirondelles dans l'air et un sourd bourdonnement de sauterelles, pas un bruit ne troublait la tranquille somnolence de la rue. Et, à l'exception d'un matou gris bravement assoupi sur le pas d'une porte, le quartier était absolument désert. De toutes ces demeures endormies, la plus fermée et la plus silencieuse était encore une vieille maison où la tradition locale veut que Louis XIII ait couché au retour de ses noces avec Anne d'Autriche. Ces deux corps de logis en équerre étaient séparés de la voie publique par une cour étroite et une grille en bois où s'échevelait une vigne qu'on ne taillait jamais. À l'un des angles de la cour, une tourelle au toit en éteignoir donnait accès dans le vestibule et servait de cage à l'escalier. Malgré le soleil qui brasillait au dehors, cet escalier tournant, aux marches de pierre usées, était frais et sombre comme un puits, et cette obscure fraîcheur se continuait jusque dans la principale pièce du premier étage, dont les murs étaient entièrement garnis de rayons de chêne ployant sous le poids des livres. Des plinthes jusqu'aux corniches, in-folio en basane brune à tranches rouges, in-quarto en veau fauve, in-douze au dos de parchemin, s'étageaient en masse profonde et semblaient vouloir écraser les gens sous l'autorité de toute la science rangée en bataille le long des parois. De ces hautes travées de bouquins rébarbatifs se dégageait une fine poussière rance, particulière aux amas de livres, et cette âcre émanation se combinait avec l'odeur pharmaceutique exhalée par des drogues enfermées dans une étagère vitrée. De grands rideaux verts, tombant à plis droits, masquaient la fenêtre et assourdissaient la lumière violente de la rue. Dans le demi-jour qu'il tamisait, on distinguait le carrelage froid et nu avec une seule natte de sparterie sous la table de travail. La cheminée de granit rosé ornée d'un buste de Bichat. Le trumeau enfumé où un cartel Louis XVI battait son tic-tac entre une déclaration des droits de l'homme encadrée de bois noir et une gravure représentant le serment du jeu de paume. Les chaises de paille à dossier sculpté et l'unique fauteuil de cuir où était assis le maître du logis, le docteur Jacques Desroches. Le docteur avait 55 ans et paraissait plus vieux que son âge. Grand, maigre, raide d'attitude, avec un visage aux lignes sévères, il était déjà presque chauve. Sa barbe, qu'il portait entière, était blanche, ainsi que les rares touffes de cheveux qui lui restaient. Sous des paupières rougies et fatiguées, ses petits yeux d'un bleu d'acier éclairaient sans l'animer sa figure glaciale. À la nuance fauve des sourcils, au ton coloré des joues et du crâne, on devinait qu'il avait dû être roux avant que le travail ou les chagrins eussent blanchi sa barbe et dégarni sa tête. Les jambes croisées, le corps rejeté en arrière, il lisait attentivement le National. La rigidité de ses traits ne s'altérait par moments que lorsqu'un bruit sourd venant de l'embrasure de la fenêtre amenait sur ses lèvres chagrines une grimace d'impatience. C'était un bruit intermittent, un murmure confus de paroles à peine articulées, coupé de silence et suivi chaque fois d'un jappement étranglé. Tous les gens d'étude savent combien sont énervants ces chuchotements timides qui tombent à des intervalles irréguliers dans la paix d'un cabinet de travail. Mieux vaudrait un tapage bien franc et bien accentué. À la fin, le liseur n'y put tenir. Imprimant un demi-tour à son fauteuil, il se dressa tout d'une pièce et, soulevant un des rideaux, « Thérèse !» dit-il d'une voix sévère. Un flot de lumière ruissela dans la chambre et laissa voir les coupables. Une jeune fille de 16 ans et un chien. La jeune fille, assise sur une chaise basse dans la profonde embrasure de la fenêtre, avait l'un de ses bras levé et agitait en l'air un vieux gant que le chien, un beau Danois à robe fauve, accroupi sur son train de derrière et la tête posée sur ses pattes de devant, guettait d'un œil attentif en poussant un aboiement étouffé. « Ne peux-tu demeurer en repos un instant ?» continua M. Desroches d'un air irrité. « Ton manège m'agace !» Devant cette brusque apparition, les deux délinquants s'étaient arrêtés tout penauds. La jeune fille laissa tomber son gant et sortit de l'embrasure. « Pardon, mon père, » répondit-elle. « Je ne croyais pas faire de bruit. C'est si ennuyeux de rester là sans bouger. Nous essayons de nous distraire un peu, Dash et moi, en attendant l'heure de la promenade. » En même temps, comme pour faire amende honorable, elle s'élança vivement vers le docteur et voulut l'embrasser, mais celui-ci arrêta net ce mouvement d'expansion. Il saisit les deux poignets de la jeune fille et la dévisagea un moment d'un air soupçonneux. Ses lèvres prirent une expression plus amère, et l'écartant avec raideur, « Ah, il suffit » murmura-t-il. « Ne te débarrasseras-tu jamais de tes façons bruyantes ? Tu te crois toujours au village, au milieu de tes paysans. » Les yeux de Thérèse brillèrent d'un éclat humide. « Mes paysans avaient du bon ?» répliqua-t-elle, mortifiée par l'injuste rigueur de M. Desroches. « Ils m'aimaient, et chez eux, je ne trouvais pas le temps long. Le temps n'est jamais long quand on sait s'occuper, » repartit froidement le docteur. « Prends un livre et tiens-toi tranquille. J'ai horreur des gens désœuvrés. » La jeune fille alla vers un des rayons de la bibliothèque, y prit un in-quarto et s'assit dans un coin, d'un air boudeur. Ses joues s'étaient empourprées et, entre ses sourcils, deux rides verticales plissaient son front large et intelligent. Comme pour la consoler, le chien, quittant l'embrasure, était venu s'étendre à ses pieds, tandis que le docteur se réinstallait dans son fauteuil. Il s'était remis à lire le National. Mais il avait beau concentrer son attention sur les colonnes imprimées, ses yeux parcouraient le texte d'une façon machinale et son esprit était ailleurs. Ses lèvres avaient une expression plus morose. Son visage s'était encore rembruni, comme si la scène de tout à l'heure eût évoqué un souvenir importun. Le docteur Desroches avait en effet au cœur une vieille blessure mal fermée que le moindre incident faisait de nouveau saigner. Il s'était marié à 37 ans avec une femme beaucoup plus jeune que lui, et elle l'avait trompé. Pour éviter le scandale, il avait d'abord tout supporté silencieusement, essayant du moins de sauver les apparences. Mais un jour, il y avait 7 ans de cela, Madame Desroches, lassée elle-même de cette situation fausse, s'était enfuie avec un hobereau du voisinage. Depuis cette époque, elle vivait à Paris, on ne savait comment ni avec qui. On ne prononçait plus son nom. Tout Saint-Clémentin avait dit « racas » sur elle, et on la considérait comme morte. Le docteur aurait pu croire qu'il avait fait un mauvais rêve, si, en quittant le domicile conjugal, la coupable n'y avait laissé une fille, qui rappelait au mari trompé tous les déboires et toutes les douleurs du passé. Dans les premiers temps, la vue de cet enfant lui avait été tellement insupportable qu'il l'avait renvoyée en Touraine, dans le village où elle avait été en nourrice. La mère et le père nourricier de Thérèse étaient de braves métayers des environs de Précigny. Ils avaient gardé une grande affection pour leur nourrissonne et furent enchantés de la reprendre avec eux. Elle vécut là en vraie campagnarde et quitta la métairie à regret pour passer 3 ans dans un couvent de Poitiers. Elle allait atteindre sa 16e année quand son père jugea nécessaire de la rappeler à Saint-Clémentin. C'était une concession faite aux convenances, mais chaque jour, le docteur Desroches trouvait le sacrifice plus pénible et l'épreuve plus lourde. Ses répugnances d'autrefois allaient s'aggravant et s'exaspérant. Bien que Thérèse fût née à une époque où la conduite de Madame Desroches paraissait régulière, le docteur n'avait pu empêcher le doute de se glisser traîtreusement dans son esprit. Pendant ses premières années, où la molle physionomie de l'enfant est encore indécise, il avait cherché à se persuader qu'elle lui ressemblerait. Mais, à mesure que l'adolescence succédait à l'enfance, il sentait ses illusions décroître et ses soupçons grandir. Aujourd'hui, la jeune fille était formée, ses traits ne devaient plus guère se modifier, et tout à l'heure, encore, il avait été frappé en voyant combien ils différaient de ceux des Desroches. Cette douloureuse étude du visage de Thérèse, il la renouvelait sans cesse depuis 6 mois, et chaque fois avec une souffrance plus poignante, un déboire plus amer. En ce moment même, par-dessus la page du journal, il examinait à la dérobée la jeune fille penchée sur son livre. Il analysait un à un les détails de sa personne. Les cheveux bruns abondants, les yeux aux prunelles foncées et brillantes comme des cerises noires, la bouche aux bonnes lèvres rouges et charnues, la physionomie mobile, le geste brusque, la taille souple aux courbes gracieuses. Indubitablement, ce n'était pas le sang des Desroches qui courait sous cette peau au ton mat. Cet enfant n'était pas de lui. Il froissait son journal et ses lèvres sarcastiques se crispaient. Il souffrait atrocement dans son orgueil, dans ses illusions paternelles effondrées. Il regrettait alors l'ancienne incertitude et de nouveau, il dévisageait Thérèse avidement, épiant un geste, un regard qui put ramener le doute dans son cœur désabusé, un de ces tics familiers où l'on retrouve la trace d'une origine commune, un de ces riens pouvant lui laisser croire encore qu'elle était réellement sa chair, et non une étrangère entrée en fraude dans sa maison, la fille d'un autre.